Salut, bienvenue dans Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Cet épisode est le premier de la deuxième saison. Ce qui va changer ? Pas grand-chose. J'ai fait le choix de modifier un peu le questionnaire d'interview, mais on garde les mêmes thèmes. Les émissions seront postées les derniers mercredis de chaque mois. L'invitée du 13e épisode est Suzanne Joly, plus connue sous le nom de Suzette d'École et Étiquettes. Suzanne est formatrice sur les questions d'égalité filles-garçons et co-créatrice du podcast Envolée Comptée. Avec elle, on discute des formations qu'elle propose aux professionnels de l'éducation, à l'importance d'être ensemble et des pompières. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Suzanne.
Bonjour Alison.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Bien sûr, mais je m'appelle Suzanne Joly, j'ai 31 ans, j'habite à Rennes, en Bretagne, et si je me présente d'une manière professionnelle, j'ai deux casquettes. Donc la première, c'est Suzette d'École les Étiquettes, donc je suis formatrice sur le thème de l'égalité filles-garçons et de l'éducation à la vie affective et sexuelle aussi, donc j'interviens à la fois auprès des professionnels de l'enfance et de la jeunesse et à la fois en direction des enfants, des ados ou des parents. Et puis, ma deuxième casquette, c'est que je co-réalise un podcast d'histoire pour enfants avec deux amis qui vont un peu dans ce sens-là aussi, puisqu'on essaye, dans nos histoires, de ne pas véhiculer d'autres stéréotypes de genre ou en tout cas de proposer des modèles un peu plus élargis aux enfants.
Et qu'est-ce qui t'a amené à te questionner sur les stéréotypes de genre ?
Ben, je dirais que c'est venu assez tôt, je pense, dès le collège ou dès le lycée. En tout cas, j'observais que dans des situations banales, voilà, notamment par rapport à l'apparence physique ou vestimentaire, qu'on n'était pas forcément traité de la même manière. Et donc, c'est quelque chose qui me questionnait beaucoup. Avec des amis, on en discutait pas mal. Et puis, de fil en aiguille, j'ai creusé le sujet de par mes études.
Pour toi, pourquoi questionner les stéréotypes de genre est-il important dès l'école maternelle ?
Pour moi, c'est important parce que déjà, les stéréotypes et puis plus généralement, toutes les questions liées au genre, à l'égalité, c'est des choses qui sont partout autour de nous. C'est vraiment des enjeux de société. Et puis, ce sont des mécanismes qui commencent dès le plus jeune âge, voire même avant. Et puis, forcément, les adultes qui sont en charge des enfants, que ce soit à la maison ou dans le cadre professionnel, ce sont des adultes qui sont aussi socialement construits autour de ces stéréotypes et de ces normes de genre. Donc pour moi, c'est logique que ce sont des choses qui se reproduisent aussi dans le milieu scolaire et c'est pour ça que c'est intéressant de venir questionner du coup tout ça aussi dans les milieux scolaires.
Et quelle place est là en ce moment pour toi, cette question du genre dans le milieu scolaire ?
Je dirais que le genre en tant que sujet d'étude, on va dire, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place, mais notamment dans le secondaire, je dirais. Déjà, on parle d'égalité filles-garçons dans les programmes et puis on met aussi en place des personnes référentes, donc des personnes référentes du thème de l'égalité filles-garçons dans les établissements, donc notamment dans le secondaire. Et donc autour de ça, je vois des initiatives qui se développent, mais pour autant, j'ai l'impression que ça reste au bon vouloir du corps enseignant ou de la personne référente notamment, et que ça manque encore un peu de dynamique de groupe ou de socle, on va dire, de connaissances ou de compétences dans la formation des professionnels. Après, par contre, si on parle du genre en tant que système social, là, évidemment, c'est très, très présent puisque on voit toutes les problématiques qui découlent de ces questions-là, y compris en milieu scolaire, donc que ce soit dans la cour de récré, que ce soit dans les manuels scolaires, que ce soit dans la prise de parole en classe, que ce soit dans les espaces de jeux ou de jouets, dans les activités physiques et sportives, etc. etc. Ça fait vraiment partie des murs hein, et puis des mécanismes de groupe, quoi. Donc, en ce sens-là, le genre occupe une place énorme dans les écoles. Donc, c'est à la fois un terrain de reproduction des stéréotypes de genre, mais du coup, c'est aussi un terrain énorme d'observation et d'action, ou en tout cas de levier, puisque du coup, je me dis qu'il y a aussi plein de choses à faire pour faire évoluer les choses.
Tout à fait. Et dans l'épisode précédent, avec Amandine Ancevitch, on discutait de l'importance de la formation des professionnels. Et c'est une des raisons pour lesquelles je désirais qu'on enregistre ensemble. Pour toi, pourquoi est-ce que c'est important que les professionnels de l'enseignement se forment aux stéréotypes de genre ?
Pour moi, c'est important pour justement sortir des initiatives individuelles parce que aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on observe. Donc voilà, des enseignants et enseignantes qui se sentent concernés par le sujet et qui, du coup, cherchent à agir à leur hauteur. Et je me dis que par la formation, on passe aussi au stade suivant, qui est une dynamique collective, en fait, une réflexion de groupe, d'équipe sur un sujet. Et donc, je pense que ça permet déjà d'aller plus loin. Et puis, la formation, de base, c'est une expérience collective qui permet aussi d'échanger énormément avec ses pairs, justement, sur les pratiques, sur les solutions qu'on peut mettre en place, sur les freins qui existent, que ce soit financiers, matériels, humains, etc. Et du coup, comment est-ce qu'on peut dépasser ça pour proposer d'autres pistes, d'autres solutions. Et puis, je pense aussi que c'est important, par la formation, de revoir certaines notions, de revoir un peu les bases, donc d'avoir aussi un apport théorique, que ce soit pour monter en compétences sur le sujet ou que ce soit pour avoir une piqûre de rappel. Dans tous les cas, je pense que c'est utile et notamment que c'est utile de l'entendre en équipe pour aussi avoir justement un échange de groupe sur le sujet. Donc voilà, pour moi, la formation, ça permet vraiment de prendre du recul, de faire un pas de côté, d'observer un peu ses pratiques, ses postures et puis d'essayer de tendre vers quelque chose de moins genré ou de moins sexiste au quotidien.
Mais tu me disais que c'était un sujet actuel, mais est-ce que tu as l'impression que les professionnels, ils ont envie de s'informer sur ces questions-là ?
Alors, peut-être que moi, je ne rencontre que les professionnels qui ont envie de se former sur ces questions-là, évidemment, puisque les gens qui viennent à moi, c'est des gens qui sont motivés. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même un élan autour de ces questions-là. On en entend de plus en plus parler quand même, je trouve. Mais après, c'est sûr que c'est difficile de mettre en place des formations qui mobilisent peut-être sur une journée, sur deux journées, qui demandent à ce que toute l'équipe soit présente et qui ont un certain coût. Donc voilà, il faut aussi faire ce choix-là de se dédier un temps à ces questions-là, quoi. Et donc, en ça, ça peut être un peu difficile.
Et toi, en tant que formatrice, vers quoi est-ce que tu désires amener l'école ? Qu'est-ce que tu t'es donné comme mission en tant que formatrice ?
Moi, je dirais que ma mission, c'est à la fois d'apporter quelque chose de théorique pour justement revenir un peu aux notions de base, etc., pour avoir un socle, en fait, on va dire, de connaissances. Et puis, en même temps, j'ai vraiment à cœur d'avoir une approche assez concrète, pratico-pratique, qui soit applicable dans le quotidien parce que je n'ai pas envie d'apporter quelque chose qui serait trop loin des réalités de terrain. Donc, mon but, c'est vraiment d'avoir à la fois cet apport théorique, comme je le disais, mais aussi de faire un focus sur les pratiques professionnelles et puis de susciter l'échange entre les professionnels pour que ces personnes-là puissent aussi trouver d'elles-mêmes des ressources, des solutions en fonction de ce qui est possible dans leur structure, en fonction de leurs moyens, etc.
Et concrètement, tu peux nous expliquer comment ça se déroule ?
Comme je le disais, il y a toujours une approche un peu théorique. Après, je propose différents modules, donc je m'adapte toujours de toute façon aux attentes et aux besoins des structures. Puis donc, en fonction des modules que les structures choisissent, on peut aborder justement des questions liées au matériel pédagogique, liées à l'infrastructure, donc plutôt l'organisation de l'espace, ou plutôt liées aux pratiques professionnelles. Donc voilà, pour moi, il y a différents niveaux d'action. Ce qui va être intéressant, c'est de venir questionner un petit peu tout ça, puis permettre aux professionnels d'avoir cet espace d'échange.
Oui, je crois que c'est important d'ouvrir les portes. Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent remarqué, moi, dans mon expérience, c'est qu'il y a plein de bonnes idées dans plein de classes et qu'il n'y a pas souvent l'occasion d'ouvrir vraiment la porte et de discuter sur ce qu'on fait dans nos classes.
Effectivement, ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup des formations, c'est qu'en fait, rien que d'être ensemble, d'avoir ce temps privilégié d'échange de pratiques, en fait, c'est énorme. Déjà, ça crée de la cohésion, ça crée aussi une dynamique de groupe et d'équipe. Et puis, ça permet, oui, d'aller plus loin, de s'échanger un peu les trucs et astuces que chaque personne essaye de mettre en place, etc. Et rien que ça, en fait, c'est déjà énorme, je trouve, parce que les professionnels, et notamment dans le secteur éducatif, où les professionnels sont toute la journée avec les enfants ou avec les ados, en fait, ça permet juste d'avoir un peu une bulle. Enfin, voilà, c'est un peu une respiration d'avoir ce temps tous ensemble pour échanger là-dessus, quoi.
Et se sentir aussi soutenu. Je veux bien croire que d'avoir l'occasion d'en parler comme ça avec d'autres personnes, de voir que d'autres collègues font aussi des choses, de prendre leurs bonnes idées et d'être rassuré aussi.
Et surtout de se rendre compte qu'en fait, on a toutes et tous les mêmes problématiques. Peu importe les structures, notamment dans les structures éducatives, ça va toujours être les mêmes problématiques qui reviennent. Et donc, de voir que, en fait, les autres professionnels s'interrogent aussi sur ces mêmes problématiques et que chaque personne a, de son côté, différentes pistes de réflexion, différentes pistes de solutions, etc. C'est hyper riche, en fait.
Quel retour tu as suite à tes formations ?
Ben, justement, déjà, le côté piqûre de rappel sur l'aspect théorique, pour ceux qui ont déjà un peu ces notions-là. Pour ceux qui ne les ont pas, ça permet de monter en compétence sur ces sujets. Ce qui ressort aussi, c'est voilà, l'approche concrète, d'essayer de mettre en place des choses à la suite des formations dans les structures. Donc, expérimenter des pistes de solutions, même si on le sait qu'il n'y a pas de solution miracle, il y a quand même un terrain d'expérimentation énorme. Et du coup, voilà, faut essayer différentes choses et puis voir comment ça réagit sur le terrain et puis voir aussi ce avec quoi on se sent à l'aise ou non. Parce que chaque personne part aussi d'un certain point et puis fait son cheminement sur ces questions d'égalité. Donc ça se respecte aussi. Puis voilà, comme on le disait, ce qui ressort aussi, c'est vraiment le côté échange de pratiques, quoi, se retrouver avec ses collègues pour discuter de tout ça, quoi.
Et est-ce que tu as déjà été face à des personnes qui n'avaient pas conscience du tout des stéréotypes de genre ?
Oui, il y a forcément des personnes plus résistantes que d'autres. Ce n'est pas forcément facile à gérer ou en tout cas même à accueillir dans un groupe où il y a différents niveaux de sensibilité en fait. Mais je pense que voilà, même si ça vient titiller, ça vient forcément, ça vient bousculer, je me dis que c'est quand même des petites graines de planter. Et que ça fera son chemin quand ce sera le bon moment pour la personne. Ce n'est pas toujours évident ni confortable quand on est formateur ou formatrice de voir que ça peut déranger chez quelqu'un d'autre. Mais en même temps, je crois que c'est super utile.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Au moins, semer des graines et puis laisser, comme tu dis, à chacun et chacune son rythme. Et puis, de lui laisser prendre ce qu'il veut prendre, quoi.
Ouais, et puis je me dis que... Parfois, on n'a pas toutes et tous les mêmes priorités et je l'entends tout à fait, notamment dans l'éducation. Enfin, franchement, il y a tellement de choses à faire sur tous les sujets que parfois, j'entends que la priorité n'est pas sur ces sujets-là, mais peut-être sur autre chose. Et je le comprends aussi. Et après, j'espère que forcément que les questions d'égalité filles-garçons vont prendre de l'ampleur. Mais parfois, quand on est parent, notamment, la priorité, ce n'est pas toujours de faire attention à... aux stéréotypes qu'on véhicule et tout ça, il y a parfois d'autres urgences à gérer, quoi.
Sur ton site internet, on peut te contacter et on peut aussi trouver des super ressources telles que des idées de jeux, des affiches à imprimer, des bons plans lecture. À quel public est-ce que ton site internet est-il adressé ?
Ça s'adresse vraiment à tous les adultes, donc que ce soit des professionnels de l'enfance et de la jeunesse ou que ce soit des parents ou même toute personne, même sans enfant, qui veut en tout cas sensibiliser les enfants de son entourage à ces questions-là et classer les ressources par tranche d'âge, enfin, de manière très grossière, donc enfants, adolescents ou adultes. Mais ce qui permet déjà de trouver voilà, des livres notamment ou des vidéos ou des affiches ou des jeux, comme tu le disais, qui sont adaptés à ces différentes tranches d'âge. Et puis, en parallèle, j'ai créé un espace qui s'appelle la Désétiqueteuse, qui est là un espace vraiment dédié plus pour les professionnels. C'est un drive, en fait, sur lequel je mets à disposition des outils un peu clés en main sur les questions d'égalité et sur les questions aussi d'éducation à la vie affective et sexuelle. Donc, il y a plus de choses pour les professionnels de la jeunesse pour l'instant, notamment des jeux à imprimer, ce genre de choses pour parler de tout ça avec les jeunes, quoi.
Et est-ce qu'il y a une tranche d'âge où tu te sens le plus à l'aise ?
Bonne question. J'adore travailler avec des ados parce qu'auparavant, j'étais animatrice jeunesse aussi. Donc, c'est vraiment un public que j'adore. Et puis, les questions de vie affective et sexuelle, je trouve que c'est tellement central que je trouve ça super chouette. Donc, ouais, peut-être une préférence pour les ados. Après, j'aime beaucoup aussi intervenir auprès des adultes, hein, que ce soit des parents ou des professionnels. Je trouve que c'est toujours super riche. Et puis, avec les enfants, j'ai eu moins l'occasion d'intervenir. Mais là, j'essaye de me former à d'autres techniques aussi pour avoir des nouvelles cordes à mon arc et intervenir notamment dans une approche philo avec les enfants. Je trouve que ce serait super chouette pour venir questionner l'égalité, la diversité, la différence, ce genre de choses.
Oui, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé dans l'épisode 1 avec Marie-Robert. Et toi, tu les imagines comment, tu sais déjà?
Bah, j'aimerais bien, en tout cas, par cet intermédiaire. Donc là, je suis en train de me former à ça, donc j'ai pas eu l'occasion de tester encore. Mais en tout cas, j'aimerais bien vraiment questionner. Voilà, c'est quoi l'égalité? Qu'est-ce qui fait qu'on est pareil? Qu'est-ce qui fait qu'on est différent? Etc. Et puis venir ouais, questionner tout ce qui est en lien avec la diversité, quoi. Je pense que ça peut être super riche d'avoir aussi les retours, les points de vue des enfants, voir un peu où est-ce qu'ils en sont sur ces questions-là, et puis réfléchir à ces sujets-là. Je trouve ça passionnant.
Je pense aussi, surtout que j'ai l'impression que c'est une activité que tu peux faire avec un public assez large, en fait, un peu à tous les âges.
Ouais, complètement, complètement. Moi, c'est vrai que j'ai envie d'utiliser cet outil avec les enfants particulièrement, mais je suis complètement d'accord. Ça marche avec tout type d'âge. D'ailleurs, dans la formation que je suivais, ils disaient que c'était plutôt à partir de 4-5 ans, mais après jusqu'à voilà, jusqu'à l'EHPAD. Complètement. Réfléchir, développer son sens critique, écouter les différents points de vue. Enfin, ça n'a pas d'âge, mais surtout, ça participe au vivre ensemble, quoi.
Je crois que aussi, même dans l'atelier philo en tant que tel, apprendre à prendre la parole devant les autres, se sentir légitime de prendre la parole, écouter l'autre jusqu'au bout, je pense que ça aussi, hein, ça peut vachement déconstruire des stéréotypes aussi de genre et aider les filles et les femmes à se sentir légitimes, apprendre peut-être aux garçons et aux hommes à écouter et à laisser la parole. Je pense même qu'en tant que professionnel, c'est aussi un chouette défi de se regarder comment on se place dans ce genre de situation.
Complètement.
Face à une ou un professionnel de l'éducation qui voudrait plus d'égalité dans sa classe, par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer cette démarche?
Ben, moi, je pense que le plus facile, c'est d'agir au niveau du matériel pédagogique. Franchement, je pense que c'est le plus facile à observer. Donc, voilà, observer les livres qu'on a, par exemple, en classe ou en structure, observer les jouets, les types de jouets, comment est-ce qu'ils sont organisés dans l'espace, etc. Je pense que c'est le plus facile pour, opérer quelques changements, notamment sur, la littérature jeunesse, hein. Je pense que c'est un levier qui est assez, simple à mettre en place. Après, si on veut, aller plus loin, ben, il y a tout ce qui relève justement de l'organisation, de l'aménagement de l'espace. Donc là, ça demande aussi de faire un peu des expérimentations, que ce soit dans la cour, par exemple, ou que ce soit dans la manière dont sont répartis les espaces de jeu dans les salles. Est-ce qu'on divise, voilà, par exemple, les voitures et la dinette, etc. Ou est-ce qu'on essaye de mélanger? Est-ce que ça a un impact sur la mixité ou non? Enfin, en tout cas, il y a des expérimentations à mener, je trouve. Et puis après, le plus difficile, je pense que c'est d'aller travailler sur ses postures professionnelles, mais ça demande déjà de s'observer un peu soi. Mais voilà, ça peut être de commencer par faire attention à la manière dont on nomme les métiers, par exemple, ou de, enfin voilà, de faire attention à chaque fois à employer le masculin ou le féminin, ou alors employer des termes épicènes pour ne pas véhiculer d'autres stéréotypes dans la manière dont on communique. Ça peut être aussi de faire attention à la manière dont on accueille les émotions des enfants, la manière dont on répartit la parole en classe, etc. Donc là, c'est plus subtil, on va dire. Puis c'est un travail du quotidien et sur le long terme. Donc, faut pas non plus fixer la barre trop haute, hein, parce que voilà, il y a plein de fois où on laisse tomber, où on baisse les bras, etc. Et c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, petit à petit, de prendre ce genre de nouvelles habitudes, ça peut être aussi une piste pour instaurer une culture de l'égalité, quoi.
Tu parlais du fait d'employer un vocabulaire, enfin des mots et au masculin et au féminin. Pourquoi c'est important?
Bah, en fait, dans le langage, je me dis que parfois, de faire toujours la distinction masculin-féminin, c'est chouette parce que justement, ça permet de nommer notamment certains métiers au féminin, etc. Mais ça vient aussi parfois renforcer une binarité. Je trouve. Et donc, il y a aussi des personnes qui ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, je me dis que les termes épicènes ont aussi cette utilité-là, de pouvoir englober tout le monde sans à chaque fois revenir au genre, en fait.
Oui, tout à fait. Donc d'avoir un vocabulaire qui est plus ouvert et plus englobant, quoi.
Ouais, enfin, je me dis qu'il faut un peu jouer sur les deux tableaux, quoi, pour que tout le monde s'y retrouve. Si on ne fait que féminiser tout le temps, ce n'est pas non plus terrible pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans ces normes-là, quoi. Donc voilà, moi j'essaie de, de jouer un peu sur les différents tableaux, mais ça c'est pareil, c'est des nouvelles habitudes à prendre, c'est pas toujours facile, mais en tout cas ça peut être intéressant d'observer ce que ça produit chez les enfants. Je me souviens notamment d'un enfant à qui je lisais une histoire sur les pompiers, et en fait le titre c'était les pompiers, dans le livre il n'y avait que des pompiers hommes, donc enfin, dans les représentations des personnages. Et donc, tout au long de l'histoire, j'ai dit les pompiers et les pompières. Et donc, au début, ça l'a interpellé, parce qu'en fait, il n'avait jamais entendu ce mot-là. Et puis après, voilà, c'est devenu normal. Mais ça ne fait pas tout, parce que les images n'allaient pas forcément dans mon sens. Donc, voilà. En tout cas, ça l'a interpellé. Et puis, bah, ça a planté une petite graine. Mais voilà, parfois, de juste dire le corps enseignant au lieu de enseignant ou enseignante, ça peut être aussi peut-être plus englobant de temps en temps, quoi.
Tout à fait. Et en ce qui concerne les histoires, ben, je pense que le podcast Envolé Conté est un bon remède à ce genre de stéréotypes, quoi.
Ouais, ben en tout cas, ça fait vraiment partie de notre volonté de proposer des modèles élargis, des métiers au féminin, etc. Ou en tout cas des traits de caractère qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans des histoires classiques. Donc là-dessus, en tout cas, on essaye de faire attention, même si évidemment, ce n'est pas parfait, hein. On reste aussi, par exemple, beaucoup dans la binarité, on parle de garçons et de filles. Mais voilà, je me dis qu'en tout cas, pour les enfants qui nous écoutent, ça a peut-être un impact de montrer d'autres traits de caractère, d'autres compétences, d'autres métiers, et d'autres émotions aussi, qui soient à la fois au féminin et au masculin, quoi.
Concrètement, d'après toi, quelles activités peut-on mettre en place dès l'école maternelle pour déconstruire les stéréotypes de genre?
Ben donc, il y a les ateliers philo dont on parlait tout à l'heure. Il y a la littérature jeunesse aussi dont on parlait, qui peut être vraiment un levier énorme pour aborder plein de sujets. Et puis, je pense aussi qu'il y a tout le travail autour du corps, enfin, du rapport au corps, donc que ce soit initié au consentement, que ce soit nommé toutes les parties du corps, y compris les parties génitales, que ce soit voilà, d'accueillir et de reconnaître ses émotions, de les verbaliser et puis d'identifier les besoins qui en découlent, etc. Et puis tous les enjeux aussi autour de la motricité, et pas seulement la motricité courir vite, etc. Ça peut être aussi dans la coordination, le rythme, l'élégance, etc., qui je trouve est un peu une partie oubliée de la motricité. En tout cas, tout ce travail autour du corps, je pense qu'il est déjà fait, notamment avec les émotions. Il y a eu un énorme travail autour des compétences émotionnelles dans les écoles, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que tout ce qui est consentement et motricité, ça peut être aussi, et puis le fait de nommer, comme je le disais, ça peut être aussi d'autres pistes d'action, quoi.
Tout à fait. D'ailleurs, par rapport à la motricité, tu me fais penser à la vidéo d'Émilie sur Qui fait l'école, une vidéo YouTube sur sa chaîne que j'ai regardée ce matin et j'adore. J'adore parce que je trouve qu'elle a pu faire une vidéo ultra concrète sur une activité clé en main à mettre en classe qui peut paraître évidente.
À laquelle on pense pas.
C'est ça, exactement. On n'y pense pas.
Complètement, j'ai trouvé cette vidéo géniale aussi parce que, comme tu dis, super concrète et c'est précis, ouais, ça donne envie de mettre en place l'activité. Donc, ouais, j'ai trouvé ça génial aussi. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à regarder cette vidéo sur la motricité et l'égalité filles-garçons.
Pour faire un petit point pour les personnes qui n'ont pas encore regardé, Émilie sur la chaîne YouTube Qui fait l'école, qui a une vidéo, je pense qu'elle fait entre 5 et 10 minutes, sur le fait de lancer un ballon avec son pied, donc de shooter dans un ballon avec son pied, et qui explique qu'il y a bah, beaucoup de petites filles qui ne parviennent pas à le faire et qui utilisent leurs orteils, le bout du pied pour shooter dans le ballon, et que ça amène et de l'imprécision et de la douleur dans sa classe pendant une activité de motricité. Elle apprend à tous ses élèves à envoyer le ballon à l'intérieur du pied. Donc, elle le fait avec différents supports. Donc, c'est vraiment une vidéo à aller regarder si on veut une activité ultra concrète à mettre en place. Et je voulais aussi revenir par rapport au consentement. Je trouve que c'est une question qui, moi, me paraît encore difficile. Est-ce que toi, tu as des bons plans pour mettre en place, cette question du consentement?
Bah là-dessus, je pense que c'est plus une vigilance hein, de, à chaque fois, verbaliser quand il se passe quelque chose, de dire « Ah bah là, tu vois, la personne t'a dit non, donc c'est non. » Ou alors « Ah bah tu vois, quand tu fais ça, ça lui provoque telle émotion. Est-ce que tu as l'impression qu'elle est contente, enfin que cette personne est contente ou pas ?» De montrer en fait concrètement ce qu'un acte, un geste peut avoir comme conséquence sur l'autre. Petit à petit, je me dis que ça va devenir un réflexe pour les enfants. Donc, ce n'est pas évident. Hein. Moi, je travaillais pas mal avec les 3-6 ans avant. Il fallait sans arrêt tout verbaliser tout au long de la journée. Donc, c'est vrai que c'est épuisant de faire que de la gestion de conflits, etc. Mais je pense que c'est vraiment essentiel pour que ça devienne un réflexe après pour les enfants. Donc, il y a ça. Et puis, après, ça peut être aussi de questionner tout ça avec des lectures, notamment sur les bisous, les câlins, etc. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant. Et puis aussi de ne pas avoir peur de nommer les parties génitales quand on change un enfant. Ça, je pense que c'est important d'introduire aussi un peu ces notions d'intimité, de pudeur, etc.
C'est ça. Et puis j'ai l'impression aussi que ça demande en tant qu'adulte d'être aussi au clair avec soi-même.
Oui, ça demande déjà de conscientiser que quand on dit « Ah, mais il t'embête, c'est normal, les garçons aiment bien embêter les filles » ou ce genre de choses, ben non, en fait, c'est pas normal. Ça, c'est quelque chose qu'on entend parfois, même souvent, et c'est pas parce qu'on aime bien quelqu'un que c'est normal d'aller l'embêter, d'aller le toucher si l'autre n'a pas envie, etc. quoi. Effectivement, ça demande déjà de prendre conscience de tout ça pour ensuite le verbaliser auprès des enfants.
C'est ça. Et je pense que, comme tu dis, c'est aussi petit à petit. C'est par quelques remarques, je pense qu'on peut aussi faire la différence. C'est dans la répétition, dans un sens, qu'il y a le côté néfaste. Donc, j'imagine que dans l'autre sens, ça peut aussi faire le taf, quoi.
Complètement.
Avec les différents invités du podcast, on est plus ou moins d'accord pour dire que les stéréotypes de genre se glissent dans les interactions du quotidien. Donc, on le disait aussi toutes les deux. Est-ce qu'il y a une situation de la vie de tous les jours que tu trouves ultra stéréotypée et dont tu voudrais nous parler pour qu'on y prête peut-être plus attention?
Je dirais que c'est le fait d'accorder, sans s'en rendre compte, plus de place aux garçons, en fait, que ce soit dans l'espace, dans la parole, dans un plus grand laisser-passer ou une plus grande tolérance vis-à-vis de comportements qui pourraient être parfois problématiques. Ça, j'ai l'impression que c'est très subtil, c'est très dilué et donc c'est difficile de s'en défaire. Ça demande vraiment de l'observation, du recul, etc. Mais pour moi, c'est ce qui me gêne le plus, quoi. Mais c'est super difficile de s'en rendre compte au quotidien. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me questionne énormément, quoi.
Pour finir, aurais-tu un bon plan à donner aux personnes qui nous écoutent ?
Oui, je pense à deux choses en particulier. Je pense déjà à la librairie en ligne qui s'appelle « Les livres qui s'aiment ». Comme j'adore la littérature jeunesse, en fait, je trouve ça chouette ce genre d'initiative. Donc voilà, c'est une librairie en ligne qui a vraiment pour objectif de proposer des ouvrages qui sortent un peu du lot et qui sortent des clichés, y compris racistes, etc. Donc, en tout cas, ça peut donner des billes pour avoir des ouvrages un peu de référence sur ces questions-là. Et puis, la deuxième initiative, c'est la plateforme Mathilda.education. Donc là, qui s'adresse plutôt à des professionnels de l'enfance ou de la jeunesse, qui présente plein de vidéos sur tout un tas de thèmes en lien avec l'égalité. Donc, que ce soit sur la cour, sur la littérature, sur les sciences. Enfin, vraiment, il y a énormément de sujets qui sont passés en revue. Et c'est pareil, c'est des vidéos qui sont très, très courtes. Et donc, je trouve que pour les professionnels qui veulent un peu creuser ces sujets-là, c'est vraiment un outil super chouette, quoi.
Je trouve aussi, j'ai découvert ce site il y a quelques semaines. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a certaines vidéos qui sont accessibles pour des jeunes, Il y a certaines vidéos qui sont accessibles pour des personnes plus âgées. Il y a différents formats. Il y a des vidéos qui ont été faites par les enfants. Il y a d'autres qui sont plus comme des documentaires. Et les ressources pédagogiques à côté, c'est des petits bijoux vraiment. Je suis contente que tu en parles parce que ça a été vraiment une belle découverte pour moi.
Ouais, c'est vraiment des outils clés en main. Et comme tu dis, ça peut être aussi des supports de discussion avec les ados notamment. Donc, c'est super chouette, quoi.
Moi, je voudrais parler de ma lecture du moment. C'est un livre écrit par Michel Perrot et Wassila Tamzali. Ça s'appelle « La tristesse est un mur entre deux jardins ». C'est aux éditions Odile Jacob. Et en fait, c'est une discussion entre deux féministes. L'une est historienne française et l'autre avocate algérienne. C'est passionnant. C'est un angle assez théorique qui permet de remettre en contexte. Moi, ça me permet de me décentraliser, de voir d'autres horizons féministes. Et c'est assez touchant. Et moi, j'adore ce livre.
Mais merci beaucoup, je ne connais pas du tout.
Merci Suzanne pour ton intervention dans le podcast.
Merci à toi.
C'était le 13e épisode de Maternelle Dégenrée, le podcast qui veut remettre en question les stéréotypes de genre dès l'école maternelle. Merci à Suzanne pour sa participation. Je vous invite à consulter son site internet suzetteformation.fr et à écouter le podcast Envolée Comptée qu'elle a co-créé. Je vous laisse les différents liens dans le descriptif de l'épisode. Le prochain épisode sera disponible le dernier mercredi du mois prochain. En attendant, je vous invite à suivre la page Facebook et Instagram du podcast pour plus de bons plans. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Si vous aimez le podcast, pensez à lui donner 5 étoiles sur Spotify et laissez votre avis sur iTunes. Ça prend quelques secondes et ça permet vraiment de donner de la visibilité aux émissions. Je vous remercie et à bientôt.